L'évangile de ce jour, tiré du chapitre 13 de saint Jean, quand il nous parle de glorification du Christ, et il en parle avec insistance, 5 fois le mot « glorifier »,« glorifiera » est répété. Ce passage de l'évangile, donc, se trouve en pleine consonance avec celui de l'Apocalypse que nous avons entendu en deuxième lecture, qui, lui, nous montre cette vision grandiose de la Jérusalem céleste, cette ville sainte, descendue du ciel, qui est pour nous la patrie promise dans l'éternité. Pourtant, on ne peut manquer de remarquer que lorsque Jésus annonce sa glorification, c'est à un moment dramatique de sa vie. Il s'apprête en effet à entrer dans sa passion. Et il annonce à ses disciples, aussitôt après avoir parlé de glorification, qu'il va les quitter. C'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Et c'est le moment qu'il choisit pour livrer son commandement qu'il qualifie de nouveau, celui de vous aimer les uns les autres. Comment concilier cette glorification de Dieu, cette absence annoncée du Christ et cet amour? C'est un peu comme si Jésus voulait nous dire « Oui, je m'en vais, je vous quitte, je remonte vers mon Père, mais c'est par l'amour que vous vous donnerez les uns aux autres que vous rendrez visible, vivante, ma présence. » Cette semaine, nous avons fêté un saint peu connu en dehors du monde monastique, et c'est bien dommage. Il s'agit de saint Pacôme. Saint Pacôme est l'illustration exacte de la finale de l'évangile de ce matin, que je vous rappelle. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous reconnaîtront que vous êtes disciples du Christ, que vous révélez la présence du Christ à travers l'amour que vous vous donnez les uns aux autres. Et c'est ainsi que vous serez témoin de cette présence vivante à jamais du Christ au milieu des hommes. Saint Pacôme a fait cette expérience-là très concrètement. Il vivait au IVe siècle, en Égypte. Il ne connaissait pas le Christ. Vers l'âge de 20 ans, il est enrôlé de force dans l'armée romaine. L'Égypte était soumise aux Romains. Et il est en sorte de demi-captivité comme soldat forcé. Et c'est dans cette sorte de demi-captivité qu'il rencontre pour la première fois les chrétiens. Des chrétiens qui viennent spontanément vers ces jeunes hommes enfermés, captifs, et qui viennent leur apporter le secours d'une présence fraternelle. C'est le premier contact que le jeune Pacôme a avec le monde chrétien. Il en est tellement bouleversé que le premier acte qu'il fera en sortant de cette semi-captivité sera de demander le baptême. Voilà que le témoignage de ces chrétiens avait révélé pour lui, dans sa vie, la présence vivante du Christ. Et l'histoire de saint Pacôme ne s'arrête pas là. Il va devenir législateur monastique, il va entrer dans la vie monastique, mais justement, il va apporter à cette vie monastique un caractère tout à fait particulier, tout à fait nouveau. Alors que jusqu'à présent, avant lui, on insistait sur l'aspect de la solitude, Cette vie monastique concernait surtout des ermites, des gens qui vivent en solitude, même si on sait qu'ils se rencontraient les uns les autres. Il y en a beaucoup de témoignages. Et surtout aussi, cette vie était fondée sur une grande ascèse, un grand esprit de pénitence, parfois certainement pas très ajusté. Saint Pacôme va donner un autre caractère au monachisme, c'est celui de la vie commune. Il va être le premier à réunir sous un même toit, dans de grands monastères, des moines. Et nous, pauvrement et humblement, modestement, nous les cisterciens, nous sommes les héritiers directs de Saint Pacôme à travers la règle de Saint Benoît, qui visiblement est très marquée de son enseignement, et à travers aussi nos premiers pères de sitôt. Mais la question se pose pour vous qui êtes dans la nef et qui m'écoutez. C'est très bien, c'est fait pour des moines tout ça. Eh bien non, parce que la vie commune est une expérience précisément commune que nous faisons tous. Et le premier lieu de la vie commune, il n'y a pas à le chercher loin, c'est la famille. Donc nous sommes tous concernés par ce devoir de témoignage, si je puis dire, qui fait révéler, à travers la charité exercée de façon concrète, qui fait révéler aux hommes la présence de Dieu dans ce monde. Peut-être que le tableau nous paraît un peu idyllique, et c'est pourquoi nous avons besoin aussi ce matin de la parole que nous avons entendue dans les Actes des Apôtres. Une parole pleine de réalisme. Car Paul, devant ses premières communautés, avoue, « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Vivre l'amour mutuel n'est pas une chose simple et facile. » Mais pour cela, nous avons des moyens que Dieu nous a donnés. Et Paul continue. Il s'agit de mettre sa foi dans le Christ. C'est lui qui peut accomplir cela en nous, par son Esprit Saint que l'Église va appeler de plus en plus dans ces jours qui viennent à l'approche de la Pentecôte. C'est lui, l'Esprit, qui vient déposer cet amour qu'il nous appelle à vivre, qu'il partage avec nous comme bien, comme un bien de Dieu lui-même. Et Paul continue en parlant de ses disciples qui se sont remis à la grâce de Dieu. Voilà, pour aimer, il nous faut commencer par nous remettre à la grâce de Dieu, à cet amour qu'il est prêt toujours à répandre dans nos cœurs. Acceptons ce matin, pour reprendre les termes de l'Apocalypse, que vraiment Dieu puisse faire toute chose nouvelle, qu'il nous renouvelle en profondeur. C'est d'ailleurs la prière que prononcera le prêtre après la communion. Fais-nous passer à une vie nouvelle. Cette vie nouvelle, c'est celle que le Christ nous donne. C'est celle du Christ aimant qui sans cesse nous appelle à aimer, parce que par son Esprit, il répand en nous cet amour. Et alors nous pouvons devenir des témoins crédibles de l'Évangile. Et alors l'Évangile est vraiment une bonne nouvelle.